Radio Campus.
Ne faites pas attention au désordre.
Alors,
on se fait un film.
Votre 7 à 8 cinéma, tous les mercredis sur Radio Campus 88.3 FM.
Avec nous, venez faire le plein de bobines. Rendez-vous à la prochaine séance. Alors, on se fait un film.
Le mercredi, de 19h à 20h, sur Radio Campus 88.3 FM.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Alors, on se fait un film sur Radio Campus 88.3 FM. Et c'est la dernière de l'équipe B. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à l'équipe A qui, elle, n'a plus non plus d'émission, je crois. Peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas. C'est les vacances, donc merci aux auditeurs et aux auditrices. Et ce soir, pour vous servir dans les studios, Vincent.
Arnaud.
Bonsoir Arnaud.
Bonsoir.
Cory.
Bonsoir.
Fanny.
Bonsoir.
Fanny qui est toujours un peu hors champ sur Twitch, puisque je n'ai pas réussi à avoir de caméra grand angle, mais 2023, vous devriez tous apparaître. Et je crois que via Discord, nous avons, il me semble, Vincent. Bonjour Vincent.
Salut, vous m'entendez? C'est
oui,
bon
on t'entend.
Génial, bravo.
Et puis je crois qu'on a Yann aussi.
On va essayer.
Oui, l'entend aussi. C'est incroyable pour cette dernière émission de l'année. Tout le monde est là. Je vois que tout le monde est là. Écoute ce style, c'est Roots, Reggae, Raga. moi, j'ai rien vu. Je faisais en 15 jours, je n'ai rien vu, je crois.
Je ne te félicite pas.
Ouais, c'est vrai. Je comprends. Enfin, si, j'ai vu des docus, mais c'est pas trop le thème de l'émission, les docus.
Ouais, mais enfin. Voilà. Si, on en a déjà parlé.
Oui, mais c'est plutôt du docu Arte, c'est pas vraiment du docu cinématographique, c'est vraiment plutôt docu reportage, comme on pourrait qualifier ça. Je crois qu'on a aussi une nouvelle attristante.
Oui. Oui.
C'est la mort de Angelo Badalamenti, donc je mettrai des sons de Angelo Badalamenti tout au long de cette émission. Et d'ailleurs, je crois que je vais commencer par mettre le love theme de Laura Palmer dans.
Dans Twin Peaks,
parce que c'est moi, c'est ainsi que
c'est l'émotion.
Ouais, et puis c'est là où j'ai le plus découvert, je crois, Angelo Badalamenti, puisque c'est Twin Peaks qui m'a le plus
comme nous tous, hein,
percé dans la filmographie de David Lynch et dans la musique de Badalamenti. Voilà. Messieurs, dames, d'abord honneur aux dames, je vous laisse présenter le menu de ces régalades audiovisuelles.
Alors, moi, je suis allée deux fois au cinéma là, cette semaine et j'ai vu Les Bonnes Étoiles et She Said.
Ok. Voilà. Cory ?
J'enchaîne. Alors, moi, j'ai surtout bingé une série, que j'attendais depuis longtemps sur Netflix, Dragon Age Absolution.
Ça, c'est de l'anime, non ?
Ouais, c'est plus
ça.
Animé.
C'est de l'anime américain ?
Américain et sud-coréen, ouais. Mais c'est un aspect quand même plus série que contrairement à un animé où je trouve ça avait plus un aspect ne serait-ce que par l'interprétation dans les voix.
Okay.
J'ai regardé sur Prime Video Les Voyeurs, c'est un film qui sortait en 2021,
okay.
Qui était pas mal intéressant, et puis j'ai regardé aussi sur Disney+, le Holiday Special des Gardiens de la Galaxie.
Ah, que j'ai pas chroniqué, que j'ai chroniqué. Ça, on va pouvoir en parler ensemble.
Ouais.
Puisque moi, je l'ai chroniqué uniquement via Twitch avec Alexia Jeunesse qui nous suit aussi dans le chat. Incroyable. Arnaud.
Oui. Avec Vincent, on a vu fait tousser, le dernier Dupieux.
Ah oui, tout à fait.
Voilà. Violent Night.
Ok.
Voilà. Bref, on va vous en parler. Et en série, j'ai Périphérique. On a vu aussi avec Yann le Holiday Special
des Gardiens de la Galaxie. Et je crois que dans quelques jours, il y a le Holiday Special sur Netflix du Witcher. Alors, c'est pas un vrai Holiday Special, mais c'est une mini-série pour Noël dans l'univers de The Witcher. Une série un peu spin-off. Yann Vincent, vous qui êtes à distance, qu'avez-vous vu aussi ?
Yann ?
Bah, en plus de ce qui a été dit, peut-être seulement le Chapeau T2.
Ah, le Chapeau T2, effectivement, qui est sorti la semaine dernière ? Ou aujourd'hui tout juste ?
Oh, il y a deux semaines déjà, non ?
Ah, deux semaines déjà. Ok. Très bien. Et puis il y a aussi la grosse sortie du jour, peut-être qu'on vous chroniquera en 2023, à savoir Avatar 2 de James Cameron, qui a priori remet encore une claque à la technique cinématographique. Quoi. Et toi, Vincent, qu'as-tu à nous chroniquer ?
Eh bien, je vais suivre Arnaud sur les deux films qu'il a évoqués précédemment, et puis effectivement le Holiday Special aussi. On était dans la même pièce avec Yann ce week-end pour voir ça.
Ok, et eh ben on est 5 sur. On est 6, on est de plus en plus nombreux dans cette émission. Eh bien, je vous laisse chroniquer ce que vous avez envie de chroniquer en premier. Allez-y.
Qui commence ? Bah allez, je me joins, je me jette. Allez. Moi, du coup, comme j'ai dit, j'ai bingé la série, enfin l'animé Dragon Age Absolution. Donc, c'est une série, un animé fantasy assez pour adultes, qui est inspiré d'un univers de jeux vidéo que j'adore. Donc, la série Dragon Age des studios BioWare, d'Electronic Arts. Donc, c'était plutôt agréable à regarder, puisqu'on suit du coup une aventure d'une petite troupe, un peu comme dans tous les univers fantasy au cinéma, qui cherche à stopper un méchant avec un artefact magique très dangereux. Mais ce qui est plutôt pas mal en tant que fan du coup de la licence, on retrouve beaucoup du lore qui est pas mal exploré, encore développé. On a pas mal de clins d'œil, donc moi j'ai beaucoup apprécié. Ça se regarde assez rapidement, je crois il y a 6 épisodes d'une 20 à trentaine de minutes. Donc ça va. On se jette facilement dedans, je trouve, on est à l'aise. Ça a plutôt de beaux graphiques, je trouve. Le dessin, les effets sont pas mal. Et puis, ce qui est bien, c'est que la fin est une assez grande ouverture à une saison 2, je pense. Et cette série, si j'ai bien compris, elle fait un peu un appel pour le prochain jeu qui va sortir, je crois, en 2024, si je ne me trompe pas. Mais donc, ça fait une bonne introduction, on va dire.
Tu peux nous pitcher un petit peu cette série rapidement ?
Ouais, donc on suit une troupe de voleurs, on va dire, donc qui ont différentes classes. On a deux mages, plusieurs guerriers, et ils vont essayer d'empêcher l'Empire Tevintid, si je ne me trompe pas, d'utiliser un artefact magique très puissant qui pourrait bouleverser le monde. Et pour y arriver, pour entrer dans l'Empire, ils vont faire appel à une elfe qui était esclave auparavant, et donc tout au long de l'histoire, on découvre pas mal le background de chaque personnage, et notamment du personnage de Myriam, qui est l'elfe, et qui est assez traumatisée pour retourner là-bas, mais pour sauver le monde, elle le fait.
Très bien, c'était donc Dragon Age Absolution de Electronic Arts, en gros.
Oui,
si on veut simplifier. Qu'est-ce que... Fanny, peut-être ?
Oui, alors le premier film dont je vais parler, c'est donc Les Bonnes Étoiles, alors je suis pas sûre de pouvoir faire de moi-même un bon résumé, donc je vais lire ce que j'ai écrit. Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son bébé. Il est récupéré illégalement par deux hommes bien décidés à lui trouver une famille. Lors d'un périple insolite et inattendu à travers le pays, le destin de ceux qui rencontrent cet enfant sera profondément changé. Donc voilà, c'est un film qui est réalisé par Hirokazu Koreeda, donc un réalisateur japonais, mais...
c'est le nouveau Koreeda,
c'est ça.
Ok.
Et donc là, c'est par contre... Ça se
Palme d'Or en 2019, il me semble, ou 2018, avec Un air de famille.
Ouais, j'ai entendu parler j'avais vu une coloc qu'il avait mentionné l'année dernière, et j'avais noté plein de films à regarder de lui, ce que je n'ai pas encore fait. Je ne vais pas tarder, parce que j'ai vraiment bien aimé ce film. Et donc ça se passe en Corée, cette fois-ci, avec des acteurs coréens comme Song Kang-ho, qui est donc l'acteur principal de Parasite. Et je ne savais pas en regardant le film, mais apparemment la jeune actrice est en réalité une chanteuse de K-pop qui joue pour le coup très bien son rôle, donc je ne m'en serais pas doutée sans qu'on me le dise, quoi. Et aussi, un truc que j'ai remarqué, c'est la BO que j'ai vraiment particulièrement bien aimée, et elle est composée par Jung Jae-il, je suis désolée si je prononce mal, mais c'est celui qui a fait les chansons de Parasite et de Squid Game, donc... Il a su faire ses preuves déjà auparavant, et il continue avec celle-là. Et pour ce qui est sinon de l'histoire en elle-même, il y a toute cette idée de, que j'aime beaucoup, même hors de ce film, mais dans ce film aussi particulièrement, c'est l'idée de famille hors lien du sang, genre famille trouvée, qui là en plus est appuyée par le côté... Enfin, ils ont tous un passé qui est quand même très lourd. Et ça rend le... Enfin, j'aime beaucoup ce thème qui est abordé, quoi. Et aussi, il y a une espèce de touche d'humour qui est ajoutée avec un personnage qui arrive un peu plus tard, un enfant.
C'est un thème qui avait déjà abordé Kore-eda dans Tel père, tel fils. Cette histoire de filiation sans filiation.
Et donc oui, il y a des touches d'humour qui sont apportées par des personnages qui balancent un peu, contrebalancent avec ce côté très grave du reste du film et qui rend le tout. Tous les personnages sont très attachants, je trouve. Et les liens qui sont tissés sont très beaux à voir. Et franchement, je conseille ce film. Je trouve que c'est un bon détour à faire, on va dire.
Ok. Donc, les bonnes étoiles de Kore-eda. Kore-eda qui donc est un réalisateur japonais qui commence à s'exporter et faire de la réalisation dans d'autres pays, puisqu'on l'avait vu
en France,
avec Catherine Deneuve
et Juliette Binoche.
Et Juliette Binoche dans, j'ai encore oublié le nom.
Alors là, désolé, je ne vais pas pouvoir te...
à peu près l'enfer, parce que Catherine Deneuve faisait du Deneuve. Mm-hmm. Ça racontait un petit peu l'histoire de la vie de Catherine Deneuve et de sa sœur morte, comment ça s'appelait, Françoise d'Orléac.
Oui.
Oh là là.
Bravo.
Je ne sais pas comment j'ai réussi à rattraper le Françoise d'Orléac, mais voilà. Et donc, du coup, en fait, on est un peu sur une histoire de Kore-eda qui filme très bien à la française dans L'Attente, je crois, c'était ça.
La Vérité.
La Vérité, merci. La Vérité. Et donc Kore-eda qui s'exporte et qui s'essaye au cinéma coréen. Et est-ce qu'il arrive à avoir les codes du cinéma coréen? Puisque dans La Vérité, il avait pas mal de codes de cinéma français. Avec cette touche japonaise, d'une manière de filmer relativement intime et proche les...
Oui, oui. Bah, en fait, pour être honnête, en allant voir le film, j'avais juste la tête d'affiche qui était donc l'acteur de Parasite et c'est tout. Et c'est après coup que j'ai vu de un qui était japonais, de deux que j'avais déjà entendu parler de lui. Et oui, non, franchement, si on m'avait pas dit, je pense que je me serais pas dit ah oui, ça se voit que le réalisateur n'est pas coréen, quoi. Donc c'est vraiment réussi.
Ok. Eh bien, merci pour ce petit pitch. À quoi on passe? On fait encore de la grande toile?
Bah oui, on en a quand même quelques-uns. Donc, Fumer fait tousser de Quentin Dupieux.
Alors, le nouveau Dupieux, est-ce que celui-ci dure un petit peu plus d'une heure quinze?
Oui, voilà, c'est toujours dans des formats assez courts, en fait, avec lui, depuis toujours, j'ai l'impression.
Et je crois que Vérité, justement...
je n'ai pas vu.
Réalité était un peu plus long, avec Alain Chabat et Jonathan Lambert,
ouais,
et Elodie Bouchèze.
Bah non, je ne l'ai pas vu, donc je ne pourrais pas te dire. Donc là, on a, je crois que c'est un peu, c'est la première fois, un film à sketch, finalement. Donc ça va être un peu difficile à pitcher. Enfin, non, pas tellement, pas tant que ça, en fait. Donc on a d'abord les personnages de l'affiche, à savoir qu'il y a du beau linge. On a Anaïs de Moustier, on a Alain Chabat qui revient sous les traits d'une espèce de rap-pète dégueulasse. On a Gilles Lelouch, Vincent Lacoste, Blanche Gardin, etc., etc. Bon, je ne vais pas tous les citer, sinon on n'a pas fini. Et donc, au départ, on fait rapidement la connaissance d'une équipe de super-héros façon...
un peu Power Rangers. Hein.
Voilà, complètement. Qui se bat d'ailleurs dès le début dans une carrière pour faire l'hommage complet. Voilà.
Yeoman,
face à une tortue géante en caoutchouc, enfin en mousse de latex et compagnie.
Donc vraiment.
Oui, il est complètement allé dedans. Ensuite, l'équipe en question se retire pour un espèce de séminaire pour renforcer la cohésion de l'équipe. Et pendant cette fameuse retraite, les uns et les autres se racontent des histoires qui font peur.
Okay.
Et qu'on verra illustrées à l'écran. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? L'absurde toujours.
C'est la marque de fabrique de Quentin Dupieux.
Voilà, le décalage complet. Vincent, si tu veux prendre un peu la suite. Oui.
Vincent. Alors. Vincent, on t'entend pas. Ça a l'air de... Ok.
Oui, ah, j'ai des coupes, oui, je vous entends un peu en pointillé, vous m'entendez?
Oui, on t'entend.
Oui, on t'entend là.
C'est moi, ça décroche un peu de temps en temps sur votre discours, mais j'entendais Arnaud donc, qui résumait fumer, c'est tout, fait tousser.
Ok.
Bah, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit sur le pitch, en tout cas du film. Effectivement, ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Hein. C'est une bande de super-héros type Bioman qui vont se raconter des histoires qui font peur. Effectivement, ça fait peur. certaines, en tout cas. Bah, c'est moins... Enfin, il n'arrête pas. Hein, Quentin Dupieux, c'est ce que tu n'as pas dit, Arnaud, mais il fait pratiquement plus d'un film par an.
Vraiment. C'est vrai. Le dernier, c'était Mandibule. Il y en a eu entre Mandibule et Fumer fait tousser.
Mais en fait, il y a eu Mandibule, il y a eu Fumer c'est toussé le dernier, et je crois qu'il y a aussi, moi que j'ai vu, c'était, bah, on a vu il n'y a pas longtemps, Arnaud, c'était celui de la maison avec le...
Oui, Incroyable mais vrai.
Incroyable mais vrai, c'est ça. Et puis encore un peu avant, je ne sais plus, enfin, il y a des films d'1h15, 1h20, Le Dain, avec Desjardins. Donc c'est un format qui maintenant lui sied vraiment à ravir, hein, c'est-à-dire moins d'1h20, 1h17 exactement, puisque même Le Poste, ça devait faire ça. Donc vraiment, au poste. 6 films là en... 6 films en moins de 4 ans, on va dire, 5 ans. Donc il n'arrête pas. Il a il a un cerveau foisonnant, Quentin Dupieux, parce qu'à chaque fois, c'est quand même toujours assez tordu, avec des idées surréalistes. Et là, il y en a beaucoup dans celui-là. Ce qui est mieux que Mandibule, que j'ai vu, moi, sur Canal, en fait. J'avais loupé en salle. Et en le revoyant sur Canal+, je me suis un peu fait suer, en fait. Même avec 1h15, ça trouve le moyen d'être long, en fait. Et sur celui-là, bah, ça a passé un peu mieux quand même. Il y a quelques longueurs quand même, mais on retrouve justement Adèle Exarchopoulos qui fait un petit clin d'œil aussi dans celui-là. Mais il y a toujours la même photographie. Alors, il est très fidèle à cette espèce de photo un peu moche, un peu laide. C'est une espèce de flou hamiltonien par moment, avec des vieilles typos du générique qui font penser aux années 70-80.
Avec aussi un éclairage presque naturel.
Et puis par contre, tu as des smartphones quand même dans le film, donc tu as des inserts de trucs techno aujourd'hui avec une espèce de mode intemporel, on va dire. Ça, c'est la signature de Dupieux, en fait, vraiment. Donc il est mieux celui-là que l'autre, voilà. Il est mieux que le précédent, je trouve.
Il est mieux qu'Incroyable mais vrai ?
Ah, je...
Ouais, et même mieux que Mandibule, surtout.
Là, je serais pas tout à fait d'accord. Enfin, Mandibule, je l'ai pas vu, mais Incroyable mais vrai, on y était allés ensemble. Je le trouve, c'est, là pour le coup, c'est une histoire de bout en bout, et je l'avais trouvé plus passionnant quand même.
Ok.
Mais bon, il y a quelques-unes des petites histoires de celui-là, entre autres le segment avec Blanche Gardin qui est quand même de très haut vol. Donc on conseille quand même, hein, bien sûr.
Oui, c'est inclassable, il faut toujours y aller. C'est toujours...
Oui. On va peut-être enchaîner avec ton second film.
D'accord, très bien. Le second film que je suis allée voir, du coup, c'est She Said. Ça raconte en fait l'histoire de... Enfin, c'est pas une histoire d'ailleurs, c'est une histoire vraie. L'investigation qu'ont eu Megan Twohey et Jodie Cantor pour écrire l'article qui dénonçait Harvey Weinstein et qui a ensuite par la suite amené le mouvement MeToo. Et c'est du coup un film qui a été réalisé par Maria Schroeder, je crois.
Schroeder,
pardon. Et en casting, on retrouve Carrie Mulligan et Zoé... j'ai mal écrit, j'arrive pas à relire, au secours. Kazan, je crois. Et donc voilà, donc c'est un film qui est, je trouve, très important à voir et qui est... bien fait, dans le sens où c'est réellement des témoignages qui sont donnés, et encore plus, je trouve que ce qui est le plus marquant et le plus poignant, c'est qu'on retrouve par exemple Ashley Judd, qui joue dedans son propre rôle et qui donc témoigne de ce qu'elle a réellement vécu. Et je trouve que c'est tellement important de donner une voix. Enfin, on sait que l'impact que peut avoir la fiction des fois sur pour porter un message et pour le transmettre au plus grand nombre, et donc lui donner la chance de pouvoir s'exprimer d'une telle manière, je trouve ça vraiment hyper important. Et même le film en lui-même permet vraiment de voir l'envers du décor, de comment est-ce que cet article a été écrit, le parcours que chacune de ces femmes a dû faire pour témoigner, parce que c'est pas aussi simple que juste il s'est passé ça, tu portes plainte et c'est bon, ça va être réglé. C'est pas, il y a tellement
ça,
plus.
C'était
de...
un sacré boom et une sacrée remise en question du oui. patriarcat. Enfin.
Bah c'est ça, et surtout que là, en plus de ça, bah évidemment, c'est quand même une énorme figure. Il y a le côté notoriété, argent, etc. qui rentre en jeu en plus. C'est je trouve extrêmement bien fait. Et aussi un truc qui est aussi très, je trouve. Bah bien, c'est que il y a aucune scène qui est vraiment visuelle. C'est que des témoignages à l'oral et il y a pas, c'est pas choquant pour être choquant. C'est juste ouais, c'est la réalité des choses.
On vous met pas des images de la maladie d'Harvey Weinstein.
C'est ça. C'est
cette fameuse gangrène de Fournier dont je ne partagerai aucune image sur le live et dont je vous invite juste à aller voir si vous avez envie. Mais attention, c'est dégueulasse. C'est vrai. Enfin, Harvey Weinstein, comme tout bon type insupportable, a été puni par le karma et il a hérité d'une magnifique maladie qui s'appelle la gangrène de Fournier, qui est une gangrène en fait du bas-ventre, une gangrène interne du bas-ventre, voilà.
Ok. Bon.
Après, ça fait partie de ces systèmes de défense vis-à-vis des avocats et des gens qui l'accusent sur plein de choses, parce qu'il a eu une reconstruction des parties génitales suite à sa gangrène de Fournier. Et il dit que non, techniquement, c'est impossible ce qu'on m'a fait, mais
bien sûr. Oui,
ouais, enfin, il y a pas que la partie en fait agression sexuelle hein, qui pose problème avec Harvey Weinstein, oui. C'est qu'il y a tout un tas d'emprises. Oui, alors j'attise la curiosité, me dit Antoine Lois sur le chat. Ouais. Mais alors soyez bien accrochés, vous direz pas que je vous avais pas prévenu. C'est vraiment pas bon. Une gangrène, c'est déjà un truc affreux, mais alors là, c'est uniquement masculin souvent. Voilà, j'entends Arnaud qui se marre, Vincent qui se marre de loin. Vincent qui travaille en hôpital sait peut-être à peu près de quoi on parle, voilà. Quand on parle de la gangrène de Fournier.
L'art du teasing, selon le lien. N'allez pas voir ça, mais allez le voir quand même.
Oui, n'y allez pas, mais quand même. Hein. On fait une petite pause musicale.
La voix de crocodile sur Internet, surtout pas.
Non, surtout pas. En plus, on peut tout trouver. Et du coup, je vous propose de faire une pause avec
Madame Etty.
Oui, forcément, du Badalamenti, évidemment. On va écouter Dub Driving, qui est l'instru de Lost Highway, qui est l'ouverture du Lost Highway de David Lynch aussi, évidemment. Allez, c'est parti ? Non, c'est pas parti. Il est très très chiant aujourd'hui, mon ordinateur. Il est pénible. Pardon. Hop là. C'est bon ? Est-ce que tu veux y aller ? Non, alors le morceau ne veut pas se lancer, c'est formidable. Et celui-là, est-ce qu'il veut bien se lancer ? Pourtant, j'ai fait mon travail, hein, j'avais téléchargé des morceaux avant. Eh bien, on va continuer. Hein. On va continuer de faire l'émission. Je vais essayer de vous retrouver les morceaux autrement. Hein.
Ouais, bah ok.
Je vous laisse enchaîner. On fera une pause dans 10 minutes.
Oui. Je ne sais pas, est-ce que Yann, tu aurais quelque chose pour... continuer.
Vous voulez chapeauter que le chapeauté 2 ?
Ben oui, par exemple.
Ok. Alors, que je retrouve le nom du... Ah, j'ai fermé la page. c'est un monsieur Crawford, là, qui est réalisateur de ça. Il a fait les Croods 2 en gros titre juste avant. Donc, ça suit les aventures du chapeauté. On retrouve la plupart des personnages qu'il y avait dans l'épisode précédent. Le pitch, globalement, c'est que les 9 vies du chat se sont écoulées. Et donc là, il commence à voir un petit peu les pétoches d'aller à l'aventure. Son seul espoir, c'est une étoile magique au creux d'un bois pour exaucer ses vœux.
Ok.
Et donc, il est pas tout seul sur sa quête. Il y a aussi Boucle d'Or et les 3 ours. Et puis, un autre personnage qui est plutôt un personnage de comptine. Américaine, donc qu'on connaît pas trop. Et par-dessus survole l'ombre inquiétante du loup, qui est une sorte de chasseur de primes aux trousses du chapeauté. Et voilà.
Ok.
J'ai du mal à vous entendre, donc.
Bah, on dit rien en fait.
Il y a des interventions ou pas ?
On t'écoute. D'accord.
En fait, on t'écoutait religieusement, il n'y avait pas d'intervention.
D'accord, donc pour la forme, ça va assez loin dans les expérimentations, même si c'est des choses qui sont déjà vues. Alors visuellement, ça se rapproche de Arcane, okay. Avec un aspect peinture numérique qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, j'aime pas trop.
mais ça finit par passer. Et puis, quelque chose qui sortait un peu plus de Spider-Man Into the Spider-Verse, avec une animation très hachée, où il manque des étapes. Donc, pareil, des fois ça marche, des fois ça marche pas, pour l'impact des séquences d'action. C'est... Mais le film m'a gagné au fur et à mesure, par son côté assez sombre. Et là, j'insisterai sur le fait que le loup, il est assez impressionnant, avec des yeux rouges tout ronds qui ne cillent pas.
Oh là, ça doit faire vraiment flipper, ça.
Et ça... Bah, disons qu'on se rapproche de pas mal du territoire du western. Et donc, il fait un personnage un peu comme ça, un peu à la Clint Eastwood, qui débarque, qui défonce tout, qui impressionne beaucoup. Il y a aussi une référence au Bon, la Brute et le Truand. Donc, comment faire mieux, on ne peut pas. Mm-hmm. Et puis, pour les connaisseurs, je pense à Simon. Il y a aussi une petite référence à Nicolas Cage, qui a travaillé donc, sur les Croods 2. Donc, dans tous les cas, il pardonnera à son ami réalisateur. Donc, au final, bah, c'est plutôt une bonne surprise. Je dirais que c'est... meilleur que le premier, car plus sombre, même si le premier était drôle avec Humpty Dumpty et tout ça. Donc non, c'est une sortie avec les enfants qui est pas du tout une purge.
Une sortie de Noël faisable.
Oui, très conseillée.
Ok.
Et beaucoup plus courte que Avatar.
Ah bah Avatar, puis je suis pas sûr que ça soit tout à fait sortie de Noël pour les enfants, Avatar. Hein. Vu la longueur du film et vu ce qui peut.
C'est surtout ça qui rebute, oui.
Et puisque ça peut aussi entraîner derrière, comme c'est pas pour les moins de 10 ans, je pense, comme sortie quoi. C'est bon, normalement j'ai du son. Je devrais pouvoir vous passer du coup le dub driving de Angelo Badalamenti sur Radio Campus 88.3 FM. Merci.
Allô Vincent ?
Oui, je suis là.
T'entends quelque chose, toi ?
Non, c'est le blackout total.
Déjà que d'ordinaire, ça coupe un peu, mais si c'est du Badalamenti très aérien, ça va être... We'll be right back.
De retour sur Radio Campus Orléans 88.3 FM. À l'instant, c'était le dub driving de Angelo Badalamenti pour l'ouverture de Lost Highway de David Lynch. Alors, eh bien, on revient pour continuer cette formidable émission. Messieurs, effectivement, j'ai l'impression que vous n'entendez pas la musique quand elle est là, mais nous, on vous a bien entendu discuter de... de votre absence d'entente de la musique. Donc voilà. Eh bien, ouais. Par quoi on continue pour cette dernière demi-heure ?
Bah écoute, je crois qu'au niveau de la toile, il nous en reste un, à moins que je ne me trompe.
Non, je crois que c'est ça. Je crois qu'il nous reste.
Donc, Violent Night. Oui, voilà, Violent Night. De Johnny Vircola, que je ne connais pas. Il faudra que je regarde, je n'ai pas eu le temps de faire des recherches. On a David Harbour dans le rôle de Santa. John Leguizamo qui était déjà dans le menu la semaine, enfin il y a 15 jours.
Qui était au menu.
Qui était au menu, voilà. Alexis Lauder et Beverly D'Angelo. Bon, je ne les cite pas tous non plus. Alors, Nostalgie, quand tu nous tiens, c'est terrible. Comment dire, le film là a fait quelque chose un peu d'inédit par rapport à ce qu'on voit depuis quelques années concernant la nostalgie années 80, 90, etc. D'inédit, non, peut-être pas, mais en tout cas, il l'a mal fait. Voilà, c'est surtout ça. On a croisé au moins 3 films. Dans celui-là, j'ai raté l'avion, maman, j'ai raté l'avion.
Home Alone.
Home Alone, voilà. On a le premier Die Hard, un petit peu, et surtout le deuxième, 58 minutes pour vivre.
J'ai appris il n'y a pas longtemps que c'était Frank Sinatra qui avait été normalement prévu pour jouer dans Piège de Cristal.
Sinatra.
Ouais, à la place de.
Mais à quel âge ? Attends, parce que là, j'ai un doute. je pense que Vincent, tu es d'accord avec moi, à moins qu'il y ait quelque chose que je n'ai pas vu comme référence.
Le troisième, s'il fallait, c'est pour la séquence d'ouverture au bistrot où on retrouve un Père Noël un peu cuité. Ça pourrait éventuellement faire référence à Bad Santa de Terry Zwigoff, où on a le profil d'un Père Noël de. Un peu clochard, qui est très négatif, très nihiliste, et qui pose un regard très, très amer sur l'humanité. Ça, c'est drôle. Et ça, c'est le personnage un peu d'ouverture du film. C'est-à-dire qu'on a un type qui est en costume de Père Noël, croit-on. Et d'ailleurs, il y a un autre Père Noël qui boit un pot aussi. C'est la nuit de Noël. Et en fait, on a l'impression que c'est un petit peu la convention des Père Noël alcooliques anonymes qui se retrouvent dans un bistrot. Sauf que là, en fait, c'est le vrai Père Noël. On le découvre un peu plus tard, quelques minutes plus tard, en fait. Donc c'est la première surprise, si on veut, du film, c'est qu'en fait, bah voilà, le Père Noël est un type amer qui se bourre la tronche parce qu'il est désabusé de l'humanité, mais malgré tout, il continue sa tâche de distribution de cadeaux avec une hotte magique, etc., etc. Et puis comme tu dis, Arnaud, effectivement, il va se retrouver dans une situation où il va poser ses cadeaux, enfin poser son chariot et ses rênes en fait sur le toit d'une belle bicoque d'une famille très 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 riche en fait, et qui se retrouve prise d'assaut par une bande de cambrioleurs de haut vol, et c'est là que Leguizamo joue le personnage équivalent du célèbre Alan Rickman et du célèbre Hans Gruber du premier Die Hard, Piège de Cristal, pour ceux qui veulent le titre en français. Et c'est vrai que ce que disait Arnaud, c'est même plus du plagiat, c'est un plagiat, clairement. C'est-à-dire qu'en fait, oui, c'est vrai, la structure de ce film-là, c'est quasiment la structure de Piège de Cristal, mais à la seconde près, hein, avec les séquences ou de 58 minutes pour vivre pour le côté neige.
Oui, oui, neige et motoneige, hein, je veux dire, ils n'ont pas oublié, ils n'ont rien oublié.
Il y a une séquence qui fait quasiment photocopie, c'est de la photocopie, hein, c'est, ou du carbone, pour ceux qui connaissent encore.
Photocopie, voilà, c'était un coureur cycliste. Hein.
C'est presque marrant un petit peu de voir à quel point ils ont eu au cul. Puis alors, l'auteur, le réalisateur, n'hésite pas à citer même ces films-là, ça fait même partie du truc, quoi. Ils ont bien assimilé le fait que tout le monde comprendrait que c'était une parodie ou du moins une évocation de ces films-là.
Home Alone, il est clairement dit que la petite fille du film, enfin quasiment c'est la seule enfant de tout le film, a vu justement Home Alone avant d'aller rendre visite à sa grand-mère, à sa riche grand-mère, et donc deviner ce qui va se passer plus tard. C'est pas très difficile.
C'est une surprise.
Oui, 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 non, il y a effectivement.
À part le fait que voilà, c'est le gars qu'on pense qu'au début être qu'un faux Père Noël, bah, c'est le vrai Père Noël qui est capable de. Voilà, qui est magique. Enfin, qui... Alors on lui prête du coup une petite autre petite originalité, on découvre finalement ses origines. Pour voilà, bon, ça ne regarde que les scénaristes. Hein. Mais il est millénaire, hein, il a plus de 1500 ans, le Père Noël. Mmh. Et il a des racines bah, plutôt quoi, celtes, je sais pas.
Nordique, viking peut-être. C'est en fait bon, c'est pas non plus complètement très développé, c'est juste sous-entendu. Enfin, non. On nous glisse quelques images de son passé sans vraiment en expliquer.
C'est surtout pour justifier qu'il puisse se jouer après de la masse.
Oui, qui botte des fesses, des culs, pardon.
Voilà, il explose des méchants puisque voilà le côté un peu Violent Night. Il fallait bien que le titre soit. Abondé, et c'est donc un Père Noël, enfin badass, qui va, bah voilà, il a sa liste en fait, il a la liste des bons et des gens et des méchants en fait, d'abord dans sa poche quoi. Et tous les méchants du film, hein, tous les types qui font partie du gang de cambrioleurs là, ils sont sur la liste des méchants qui ont été méchants à Noël en gros. Donc ils auront pas de cadeaux, mais ils auront des gros coups de masse à la place. Donc ouais, bon, c'est pas l'extase hein, clairement, et c'est certainement pas le film de Noël. Voudrait. Voilà.
Ok, et ben on va conclure là-dessus sur la grande toile. Yann, t'as d'autres choses, toi qui es aussi en Discord, tant que la liaison est correcte?
Ouais, non, rien de plus au cinéma.
Ok, et ben je pense qu'on peut passer au Holiday Special, c'est ça, hein, il me semble.
Oui.
Et oui, pourquoi pas.
Et ben vas-y, qui veut faire le pitch? Ok.
Bah, tu l'as vu, tu peux au moins faire un petit bout de chronique vu que t'as pas vu grand chose cette semaine.
Oui, bah tu sais, moi je m'amuse derrière les potards, hein, c'est pas très très grave.
Non mais on t'oublie pas, hein, rassure-toi.
Non, vous oubliez pas. Le Holiday Special des Gardiens de la Galaxie, le pitch rapide.
Star-Lord est triste.
Star-Lord est triste selon comment il s'appelle? Son pote qui prend place Yondu, j'ai encore oublié son nom.
Oui.
Il est assez
Kraglin.
Kraglin, merci. Selon Kraglin, Star-Lord est triste parce que Yondu a saccagé Noël il y a quelques années et que donc il faudrait pouvoir redonner la magie de Noël sur la nouvelle planète qu'on vient d'acheter qui est Nowhere. On a aussi Mantis qui, elle, est triste et ne sait pas comment annoncer à Star-Lord quelle est sa sœur. Et donc, elle se dit quoi de mieux que de lui offrir ce dont il a toujours rêvé pour Noël, pour remettre de la magie, lui offrir Kevin Bacon. Puisque Kevin Bacon, dans l'imaginaire de Star-Lord et de toute cette bande-là, est le plus grand des héros. Voilà, est-ce que ça vous va pour, comme pitch?
Ouais, c'est pas mal.
On ça va... se tient. Ok.
Bon, et bah si ça se tient, que dire de ce Holiday Special? Moi personnellement, il m'a plu. J'avoue, je me suis bien amusé. J'ai rigolé avec tout cet humour un peu décalage et naïf qu'on peut avoir avec Drax et Mantis qui reviennent sur Terre et qui sont complètement en décalage avec ce qui se passe, qui savent pas où ils vont. On a des plutôt bons morceaux de Noël inventés pour l'occasion dans le Holiday Special. Ça envoie, ça déménage. Il y a carrément des bonnes scènes de poursuite. Enfin voilà, ça dure quoi? Ça dure 55 minutes.
Ouais, à peu près.
Et je crois que en fait même le CGI est plutôt réussi quand il y en a un peu. C'est peut-être pour moi le meilleur téléfilm ou version film qu'a pu, enfin version télé de ce qu'a pu produire Marvel depuis le début du Covid et cette phase 4. C'est quand même le truc le plus amusant, le plus décalé et surtout le moins cheapos à l'écran. Ça a un côté cheapos assumé qui me dérange pas en fait, du coup, puisqu'on est sur un Holiday Special. Voilà pour ma part. Après, voilà, c'est pas du grand cinéma, mais ça reste de la comédie musicale potache, marrante et décalée. À vous les studios.
Bah, c'est surtout que je pense ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas sur un gros film, on est quand même sur une mini-aventure. Ça permet de voir un peu l'exploration des personnages secondaires, parce que souvent dans les films. Surtout dans le premier et dans le 2, ils ne sont pas effacés, mais ils sont quand même en arrière-plan. Donc là, on a quand même un peu une mise en avant, ce qui peut être intéressant. Et puis, le petit format comme ça, en plus, pour Noël, je trouve, Bah, c'est sympa, ça se regarde bien, je trouve. Et puis, c'est assez amusant, même comme tu disais, les effets spéciaux, ça va, je trouvais. Parce que certaines productions d'autres séries Marvel où c'était assez catastrophique.
On n'a qu'à prendre juste She-Hulk, c'est ouais. juste pas poste, quoi, le CGI de She-Hulk. Hein. Enfin,
mais non.
Mais si, mais d'un épisode à l'autre, c'est même pas égal, quoi.
Oui, c'est en flux tendu leur truc. Et puis, ils n'ont pas arnaqué en faisant juste une apparition par. C'est pas Manimal, quoi.
D'accord, on est d'accord. Mais c'est, en fait, ils auraient peut-être pu prendre un peu plus de temps plutôt que d'être en autant flux tendu pour avoir des choses un peu plus
regardables. Faut réfléchir à ce qui est adapté pour le format série et pour le format film. Pour Miss Marvel, c'est clair que trois épisodes, ça suffisait et du coup, ça aurait fait un très bon film.
Voilà.
Donc voilà. Là, le format est plutôt adapté pour une petite histoire courte avec des personnages qu'on connaît déjà. Alors que ça ne marchait pas du tout pour le loup-garou. Là,
pour Werewolf by Night, là, que j'ai pas vu.
Présenter des nouveaux personnages dans une histoire, dans un format aussi court, là, franchement, ça allait trop vite. Rien n'était approfondi, ni vraiment. Je ne sais même pas si c'est canon, pas canon, par rapport au reste. On avait ce doute déjà sur Moon Knight. Mm-hmm. Bon, c'est quand même bien quand on veut peut-être établir quelque chose. C'est plutôt là où moi je critiquerais la phase 4. C'est le manque de lien qu'il y a entre les différents projets et puis une vision d'ensemble.
Clairement.
Je comprends que pour le début, ils avaient été plutôt prudents par rapport à Thanos et tout ça. On va pas trop balancer sans être sûr d'aller jusqu'au bout.
Mais là, ils sont sûrs d'aller au bout, quoi.
Ils auraient peut-être pu, mieux planifié. Après, planifier sans les 4 Fantastiques et les X-Men,
ouais.
Pas facile.
Et Vincent, Arnaud.
Alors,
Vas-y. Rien de plus à dire que ce que j'ai déjà entendu.
Oui, bon, enfin, moi, j'ai été mis un petit peu de côté dès le début par la chanson assez longue. Qui démarre vraiment le film.
Pour ta défense, on l'a vu en VF.
C'est vrai. c'est très possible.
Ah ouais, ça va être difficile en VF.
Il est fort possible que ça ait pas sauvé le truc. Ensuite, oui, j'ai trouvé ça assez plaisant. Bon, la blague avec Kevin Bacon, forcément, ça ne pouvait que me faire marrer.
Et puis la faire tenir une heure, c'est quand même du génie de faire tenir cette blague-là une heure, quoi.
Certes. Bon, enfin voilà. Donc oui, c'était relativement, enfin plutôt agréable, oui.
C'est pas le truc le plus dérangeant. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on prend une petite dose de Gardiens de la Galaxie avant que ça s'arrête.
Oui, qu'est-ce qu'ils ont fait à Groot quand même
Groot, il est ado, il est en pleine poussée d'hormones, il pousse de la fonte, je m'appelle Groot, quoi.
Ouais, d'accord. Ouais, non, j'avais pas.
Bah, c'est Groot ado.
Ouais.
Et puis James Gunn, lui, va rejoindre le DC Universe, donc il y aura plus de Gardiens de la Galaxie dirigé par James Gunn dans le MCU. Je sais même pas s'il va pas y avoir besoin d'un reboot. Je sais pas trop. Ça, t'as des nouvelles, Yann, de ton côté sur le MCU et James Gunn?
Bah, qui devient le Kevin Feige de l'autre côté.
Ouais, mais du coup, comment ça va se passer pour les Gardiens?
Après, bah, je pense que par rapport à Secret Wars et tout ça, et puis les événements qu'ils ont prévus, ils seront réutilisés. Peut-être qu'il sera toujours consultant officieux sur leur utilisation. Je pense que c'est comme ça qu'ils avaient été utilisés dans Infinity War et Endgame. Mm-hmm. Après, bon, il va boucler sa boucle sur le prochain film. J'espère que ce sera pas trop triste quand même, parce que là, je le sens un peu mal pour Rocket. Quoi.
Ouais, ça c'est un peu ce que tout le monde pense chez les fans. Là, quand on regarde les couleurs du logo, logo bleu, Yondu qui meurt, logo jaune pour le premier épisode, c'est Groot qui est mort. Enfin, et puis là, on a un logo.
Bon, après, on nous avait vendu la mort de Tony Stark des Infinity War. Ça s'est pas produit. Les trailers peuvent aussi mentir. Donc, je garde un peu espoir qu'on s'en prenne pas trop fort aux petites bébêtes, quoi.
Oui, c'est Antoine Hillois qui pleure dans le chat en disant « Non, c'est fini les gardiens !» Oui, les gardiens, avec James Gunn en tout cas, c'est fini, mais la franchise est trop bonne pour Marvel et pour Disney pour laisser tomber les gardiens, j'imagine.
Bah, surtout que vu que du coup James Gunn part, et que là on a l'impression que le prochain, donc le 3, qui a l'air d'être assez triste. Il y en a beaucoup qui pensent que bah, justement, partir sur une nouvelle équipe, tout simplement, garder l'aspect gardien de la galaxie, mais avec de nouveaux personnages, tout simplement, peut-être.
On va voir. Bah, de toute façon, c'est des films legacy, hein, un peu en ce moment. On a l'impression qu'on est en train de nous amener les Young Avengers tranquillement à droite et à gauche. Donc, à voir ce que ça va donner. On refait une pause musicale ou vous avez d'autres choses à traiter
Ah bah, il y avait après série.
On va faire une pause musicale avant de traiter les séries. Allez, et on va écouter mon morceau préféré de Angelo Badalamenti.
Qui est
The Twin Peaks theme. Thank you. Twin Peak Theme sur Radio Campus Orléans 88.3 FM dans Alors on se fait un film de Angelo Badalamenti. Paix à lui. On revient donc en studio pour continuer de parler cinéma. Et on a peut-être un truc qui peut méga plaire à Yann, dont on a envie de parler. C'est la bande-annonce qui est sortie tout juste aujourd'hui, ou hier, je ne sais plus, de Across the Spider-Verse. Yann, je sais que toi, tu es un grand fan de Spider-Man. Et je le prononce très très mal, j'en suis certain. Et du coup,
ça reste une spider, oui.
J'ai vu grâce à toi aujourd'hui, puisque tu l'as posté, hein, tu as dit enfin ce qu'il me manquait dans Spider-Man 3 avec ce Across the Spider-Verse.
Oui, parce que voilà, rassembler les trois Spider-Man cinéma, c'était bien, mais c'était dans un film où il se passait pas plus que ça. Donc par rapport au potentiel, c'est clair que c'était décevant. Et là, on retrouve toutes les qualités qu'il y avait sur le premier film, des délires en termes d'animation, de trame graphique, d'univers graphique.
C'est vrai que c'était
ouf. Et là, on a à peine vu la pointe du haut de l'iceberg, parce que s'il y a le Spider-Man de la série japonaise, série télé japonaise, je ne sais pas ce que ça va donner.
Oui,
le truc
oui.
qui m'a le plus impressionné dans la bande-annonce, là, c'est le fait que Spider-Man 99, il est un petit peu plus musclé que son apparence en toute fin de premier film. Là, il est assez mastoc, on dirait Venom première génération.
Ouais, il est costaud, il a été buffé. Hein.
Donc, sans parler des griffes inversées là, sur ses doigts. Donc, je ne sais pas quel rôle Miguel aura dans le film, s'il est un demi-antagoniste ou pas. C'est le genre de choses qui marche toujours bien, genre Batman contre Superman. On va se friter un chouille avant de faire équipe. Et là, c'est même plus une équipe, ça va être une armée.
Ouais, c'est carrément les Spider-Vengers. Oui, quoi.
Oui. Pour ceux qui n'ont pas vu, qui ne sont pas trop au courant, là, il s'agit d'animation ou de...
Alors, c'est la licence Sony Animation Spider-Verse, puisque c'était sorti. Le premier est sorti en 2019, je crois. C'est ça, Yann?
J'aurais dit 2018.
Ah, 2018,
je sais plus. Mmh.
Ouais, il est. Et ensuite, les aventures de Miles Morales.
Toutes les récompenses possibles.
Ah ouais, non, mais il était assez incroyable. Hein. Il était vraiment très, très beau. Et du coup, c'est là, l'une des seules licences qui reste encore en dehors du giron Disney-Fox, puisqu'il est chez Sony, ce qui permet aussi à Sony d'éditer les jeux Spider-Verse sur la PS5, la PS4, voilà, sur son support.
Ils se privent pas de faire des pubs pour leurs produits dans le dessin animé.
Ah non.
Bon, grand bien leur face, ils le font dans tous leurs films aussi. À remarquer que normalement le film il aurait dû sortir ces derniers temps. Ça a été repoussé, hélas.
À juin 2023.
Ce sera en deux parties.
En deux parties, ok. Ok. Donc gros film en attente. Hein.
Donc on peut s'attendre sur un cliffhanger.
À la fin de ce premier volume.
Prochain mois, ouais.
On traite rapidement du petit écran, de la petite boîte.
Mmh. Alors, périphérique ou périphéral, en anglais dans le texte. Donc une série qui est une adaptation d'un roman qui était inédit jusqu'à il y a de peu de William Gibbons. Mm-hmm. Donc pour resituer, c'est l'écrivain qui avait écrit Neuromancien et qui posait pas mal de bases de la cyberculture. Donc là, on a une série adaptée d'un de ses tout derniers romans. Avec à la prod Jonathan Nolan, le frère de Christopher
ouais.
Nolan. Chose que j'ignorais moi quand j'ai abordé la série. Nous avons comme acteur-actrice Chloé Grace Moretz.
Okay.
Après les autres, je dois avouer que je les connais pas vraiment.
Jonathan Nolan, il a pas fait Fondation aussi?
Alors Fondation, j'en sais rien. Par contre, il était sur
Westworld.
Merci Vincent. La série donc parle de... Ouais, alors j'ai pas les noms, donc je vais aller assez vite. Hein. Chloé Grace Moretz joue Flynn, Et on est dans un futur très très proche, mais où la technologie qu'on connaît prend de plus en plus de place. Entre autres, elle travaille dans une boîte qui a pour marchandises, c'est comme un magasin de photocopieuses avec des photocopieuses, sauf que ce sont des imprimantes 3D. Ça fait partie des éléments qui nous font effectivement comprendre qu'on est bien avancé un peu dans le temps. Son frère militaire, ancien militaire, vétéran, a des implants qui lui permettaient de partager un certain nombre d'informations et de avec ses coéquipiers. Lui, il a été blessé, il est revenu du conflit. Pour faire de la thune, il participe à des simulations, jeux vidéo ou autres. Sauf qu'il n'est pas tout à fait au top. Et c'est sa sœur qui prend souvent le relais pour faire avancer les choses et gagner les pépettes. Il aurait proposé de tester un nouveau casque de réalité virtuelle qui engendrera, qui n'est pas exactement ce qu'il semble être et qui engendrera un certain nombre de péripéties dans un futur un peu plus lointain et dans un Londres transfiguré et assez intéressant. Je ne vais pas tout vous décrypter parce qu'on va bientôt finir l'émission. Par contre, pour ceux qui seraient tentés d'en apprendre un peu plus, je vous conseille d'écouter en podcast l'émission de vendredi dernier sur France Culture, émission à 16h. Alors, je ne sais pas comment elle s'appelle, ça a changé le programme. Avant, c'était la méthode scientifique que je trouvais vraiment géniale. Mais bon, là, c'est un peu le même principe de toute façon. Et le vendredi, il parle plutôt culture et science. Et donc, je crois que toute l'émission est consacrée justement au bouquin et la comparaison avec la série. À noter que la plupart des intervenants ont trouvé que l'adaptation était plutôt bonne et à suivre. Mais je suis assez d'accord. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans au début. Et puis,
la science, c'est QFD.
Ouais. Bon, je préférais l'ancien. Bon, c'est pas grave. Enfin bref, je conseille quand même, sachant que c'est pas une mini-série, il y aura une seconde saison.
Et c'est dispo sur quoi ça ?
Là, c'est sur... Oui, merci, effectivement, j'ai oublié de le... Non, t'as raison. Complètement, c'est sur Amazon.
Ouais, je crois que c'est Amazon Prime, ouais.
Ouais.
Moi, j'ai testé, qui m'a tenu pendant une bonne heure hier, le Triviaverse sur Netflix. J'avoue, c'était assez drôle de se retrouver, cette manière interactive de proposer des jeux via la télé, via son abonnement. Voilà, les questions sont pas faciles, hein, certaines. Il y a des trucs vraiment pointus. Mmh. Voilà.
Ils n'ont pas réitéré ce qu'ils avaient fait.
Avec Bandersnatch.
Je n'avais pas le titre, que pas j'avais encore. Trouvé assez intéressant.
Pas encore, c'est un peu gros comme
tu. Tu l'as fait
Oui, j'y avais fait Bandersnatch. Et j'ai pas réussi à avoir toutes les fins encore. Hein. Des schémas dans lesquels on se re. Enfin,
ouais.
Il y a vraiment des schémas de pensée dans lesquels on n'arrive pas à sortir.
À se demander s'il y a vraiment tout ce qui est promis. Mais l'expérience, moi, j'avais trouvé assez intéressante. Ouais. Après.
Nos amis distants, avez-vous des choses en 2 minutes, 1 minute?
Non, mais tu voulais parler de trucs de Arte, toi. T'avais parlé d'Arte ou pas? Documentaire.
Non, mais j'en ai vu plein, mais c'est pas très grave. Oui. Hein,
D'accord.
En plus, c'est des vieux docs. Hein, j'ai revu un doc sur l'urbanisme dans Tokyo et comment penser l'urbanisme de demain avec des villes comme Tokyo. J'ai revu un doc sur la Côte d'Ivoire. J'ai revu du sang dans nos mobiles qui parle de l'extraction du coltan au Congo, dans la région du Kivu. Voilà, des trucs. Des Noël. Trucs fun. Noël, voilà, grande ambiance de Noël. Eh bien, écoutez, on va vous abandonner à ce moment. On se retrouve, nous, en janvier 2023. Et puis d'ici là, restez à l'écoute de la meilleure radio du monde. Ce soir, c'est la soirée spéciale Noël et c'est les 100 meilleurs disques. Donc, on va vous proposer nos petites perles, tous les uns derrière les autres. Ça va commencer d'ici peu de temps, je pense, parce que j'ai pas l'impression que la First soit dans les starting blocks. Et puis derrière, il y aura pas la classe internationale puisque c'est remplacé par les 100 meilleurs disques. Merci à vous de nous avoir écoutés. À très très vite. Ciao, ciao.